Bonjour Franche Le Hénaff.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes l'un des coordonnateurs de l'ouvrage Plogoff, une lutte au bout du monde, paru aux éditions Locus Solus le 22 octobre dernier, au sein d'un collectif d'une quinzaine d'auteurs, côté notamment de Jean Moalic et Gilles Simon. Donc Plogoff, c'est un moment marquant du militantisme politique en Bretagne et en France, puisqu'entre 1978 et 1980, des militants s'opposent à l'ouverture d'une centrale nucléaire dans cette commune du Finistère et finissent par avoir gain de cause. Peu après l'élection de François Mitterrand, donc en décembre 1980, le projet est abandonné. Alors, Franche Le Hénaff, quel type d'ouvrage, qu'est-ce que c'est ce livre en fait? Est-ce que c'est de l'histoire militante? Est-ce que c'est de la sociologie du militantisme? Qu'est-ce que vous avez cherché à raconter dans cet ouvrage?
Alors d'abord au niveau des dates, la lutte de Plogoff démarre réellement en 1974 en fait. En fait c'est 7 ans de lutte. Et c'est vrai que très souvent, aujourd'hui, dans les nouvelles générations, on pense que la lutte de Plogoff, c'est les gardes mobiles contre la population, les affrontements. Donc il y a toute une image très réductrice en fait, de Plogoff. Et cet ouvrage, qui est porté par l'association Plogoff, Mémoire d'une lutte, se veut de transmettre cette mémoire de la manière la plus fidèle, la plus vivante possible aux nouvelles générations. Voilà, il y a 40 ans, pratiquement jour pour jour, le 12 décembre 1981, où le projet de la centrale de Plogoff a été abandonné par le gouvernement de François Mitterrand. Donc c'était aussi le but de la parution chez Locus Solus de cet ouvrage à cette époque-ci de l'année, dans un moment où en plus le débat sur le nucléaire en France revient dans l'actualité. Donc c'était aussi cette nécessité pour nous. Moi j'avais 17-18 ans au moment des faits, qui est encore un certain nombre de militants, de jeunes militants de l'époque, qui témoignent et qui transmettent cette mémoire-là. Parce qu'effectivement, c'est une lutte contre un projet de centrale nucléaire, dans une Bretagne qui à l'époque est très agressée par les marées noires. Le slogan à l'époque c'était « Mazouté aujourd'hui, radioactif demain ». Donc ce qu'on appelle aujourd'hui la convergence des luttes, elle existait en fait déjà à cette époque-là, la mobilisation contre les marées noires, contre le nucléaire en Bretagne, j'ai envie de dire, et pas simplement à Plogoff, parce qu'en fait, entre 1974 et 1981, ce projet de centrale nucléaire en Bretagne s'est baladé un petit peu partout, à Erdeven d'abord, dans le Morbihan, au Pèlerin, sur l'estuaire de la Loire, à Ploumoguer, dans le Nord Finistère, à Tréguennec, dans le Pays Bigoudin, pour finir sur Plogoff. Donc c'est vraiment la lutte de Plogoff, c'est vraiment le refus des Bretons. La Bretagne a 5 départements, évidemment. C'est le refus des Bretons contre ce projet de centrale nucléaire et qui dépasse en fait la simple lutte écologiste. C'est une lutte aussi culturelle. C'est une lutte pour la démocratie. C'est aussi un fonctionnement de la démocratie qui était pointé du doigt par les opposants. Et cette lutte, elle a inspiré, comme elle a été inspirée, la lutte de Plogoff a bénéficié de la lutte au Larzac. Et d'ailleurs, les deux luttes ont convergé en 1980 lors de l'avenue des moutons du Larzac. Donc il y avait l'expérience du Larzac, le GFA, le groupement foncier agricole, la bergerie, les comités Larzac avec les comités Plogoff. Donc il y a eu l'héritage, en tout cas ce que Plogoff a bénéficié du Larzac, mais aussi des autres luttes en Bretagne. Et ce que Plogoff aussi devient aussi une référence et transmet aussi cette mémoire et ses engagements. L'association qui porte ce livre, Plogoff, Mémoire d'une lutte, est portée par une association et qui est complètement dans l'actualité, j'ai envie de dire, sur toutes les luttes qui se passent en Bretagne, sur la qualité de l'eau, sur les marées vertes, contre les pesticides, son engagement de cette association par rapport à Notre-Dame-des-Landes, qui là aussi a abouti positivement. Donc c'est aussi comment la lutte de Plogoff inspire et comment elle doit continuer à inspirer les nouvelles générations.
Et est-ce que, donc vous parlez de lutte écologiste et même de lutte, on va dire, au niveau démocratique, est-ce que c'est également une lutte, de, on va dire, d'affirmation de l'identité bretonne face à l'État français ou à la France ?
Tout à fait. Quand je dis une lutte culturelle, c'est bien évidemment une lutte par rapport à la défense d'une culture, le Cap-Cisin, la culture bretonne, la langue bretonne est très, très enracinée déjà à cette époque-là. Donc c'est aussi, bien évidemment, un engagement contre le centralisme parisien. D'ailleurs, dans l'ouvrage, on a un très très bon texte de Serge Vigou, qui est un historien réputé dans le pays bigoudin, qui raconte comment, en fait, déjà dès la Révolution française, les capistes étaient rétifs au pouvoir central, et comment, effectivement, ils avaient cette réputation-là d'être rétifs, d'être opposés, en fait, au centralisme à l'époque du roi et de la Révolution naissante, en fait. Donc il y a aussi quelque part, évidemment, cet engagement pour la Bretagne, pour une lutte qui dépasse effectivement uniquement les enjeux écologistes de l'opposition au nucléaire.
Et alors, vous disiez tout à l'heure que vous avez milité contre, du coup, cette centrale de Plogoff, vous aviez 17-18 ans. Qu'est-ce qui, à l'époque, vous a donné envie comme ça de vous engager, de militer pour cette cause ?
Alors moi j'étais déjà à l'époque en tant que lycéen et puis après comme étudiant, j'étais déjà sensible à l'environnement, c'est-à-dire je participais notamment au nettoyage de rivières. On disait déjà qu'il fallait une qualité de l'eau en Bretagne, donc c'est pas nouveau cette problématique-là. Et donc j'étais très engagé sur le nettoyage notamment du Goyenne, qui est la rivière du Cap-Cisin. Et de fil en aiguille, ce projet s'est greffé en tout cas sur mon engagement d'abord contre la marée noire. C'est mes premières manifestations d'étudiants et de lycéens auxquelles j'ai participé à Quimper. Et puis bien sûr la montée en puissance de la lutte contre le nucléaire en Bretagne et ailleurs, et notamment quand elle s'est rapprochée de là où je vis depuis toujours, à Locronan, c'est-à-dire à 40 km de Plogoff. Donc c'était aussi un projet qui allait en tout cas impacter mon environnement proche. 40 km, c'est rien du tout. Donc il y avait aussi cette volonté de défendre en fait l'endroit où j'avais décidé de vivre et de travailler en fait.
Vous êtes affichiste, graphiste également. Je sais que vous avez notamment créé une typographie, une police d'écriture entre guillemets, qui est le Brito, qui est la première typographie d'inspiration celte. Est-ce que votre art, c'est un moyen d'expression militant ?
Bah oui, c'est-à-dire j'ai toujours en fait associé les deux. Je me suis intéressé au graphisme, notamment culturel et social, en voyant les affiches notamment de graphistes comme Grapus ou comme Alain Le Carnec. C'est-à-dire quand vous avez 18 ans, que vous voyez des affiches très percutantes, à l'époque l'affichage est libre, hein, contre la marée noire, contre le nucléaire. Il est évident que moi j'avais déjà un intérêt pour le graphisme, mais que mon métier au service de mes convictions, c'était tout naturel à ce moment-là. Et c'est ce que j'ai gardé en fait dans ma pratique du graphisme aujourd'hui. J'ai toujours cette nécessité de porter mes convictions, mes idées par le graphisme, car le graphisme est un médium extrêmement important. En tout cas, il est peut-être moins aujourd'hui, mais à l'époque, il était extrêmement important. L'affichage libre, les autocollants, les publications, donc il y avait un vrai graphisme d'auteur et engagé, quoi.
On parlait du nucléaire tout à l'heure, du débat, vraiment, la question du nucléaire qui est au cœur de l'élection présidentielle à venir, et surtout les arguments sont très polarisés. Donc on a l'énergie nucléaire, c'est 75% de la production de l'énergie en France. Est-ce qu'il est nécessaire de continuer de militer, selon vous, contre le nucléaire et comment en fait ?
Plus que jamais, je crois, et le débat est le même, c'est-à-dire en 79 quand le projet Alter Breton a été créé, c'est-à-dire un document extrêmement sérieux avec des arguments scientifiques, disait voilà comment la Bretagne peut produire de l'énergie sans le pétrole et sans le nucléaire. C'était déjà, on avait déjà 40 ans d'avance en fait. C'est le même débat qu'on entend aujourd'hui sur le développement des énergies renouvelables. Donc le débat est le même et la France a pris effectivement 40 ans de retard. Aujourd'hui, effectivement, je pense que le débat, il dépasse en fait. C'est pas un débat franco-français qu'on veut nous imposer. C'est un débat européen. Il y a d'autres pays en Europe qui procèdent différemment. Aujourd'hui, là, on est lundi. Le président Macron rencontre le président hongrois, Orban, avec qui il s'allie. Il s'allie avec les populistes de l'Est, de Pologne, de Tchéquie et de Hongrie pour défendre l'idée que le nucléaire est une énergie verte, décarbonée et qu'il faut adopter et que l'Union européenne doit l'adopter en tant qu'énergie verte, ce qui est complètement à l'opposé de ce que disent et ce que font les Allemands, les Autrichiens, les Danois, les Hollandais. Donc il y a un vrai débat européen qui dépasse le débat de la place de l'énergie nucléaire en France. Il y a d'autres pays qui procèdent différemment. Il y a d'autres pays qui ont fait d'autres choix et qui sans doute résoudront les problèmes de l'urgence climatique bien avant la France, ça c'est sûr. La ville de Copenhague, capitale du Danemark, sera autonome dans sa production d'énergie en 2035. Parce que dès 1975, le gouvernement danois décide démocratiquement qu'ils vont se passer de l'énergie nucléaire. C'est dans la Constitution. Donc ce sont des choix démocratiques et ce sont des choix qui vont permettre effectivement de résoudre en tout cas le problème de l'urgence climatique. Ce que propose le président Macron, qui est davantage de l'ordre de la communication, de l'annonce en campagne présidentielle, ne répond pas à l'urgence climatique, de mettre en place des EPR, l'EPR de Flamanville est en construction depuis 2012. Il sera peut-être en fonction en 2023. Il devait coûter 3 milliards d'euros, il va en coûter 20 milliards d'euros. On ne sait pas comment ça fonctionne le PR. Les Chinois ne savent pas, ils ont eu des problèmes. En Finlande, on ne sait pas. Donc, je pense qu'il faut trouver des solutions beaucoup plus rapides pour être dans les clous des accords de Paris.
Vous parliez tout à l'heure de Copenhague, des pays du Nord. Moi, je parlerai volontiers de la Suède, donc notamment de la figure de Greta Thunberg, mais aussi des jeunes pour le climat, des grèves des jeunes pour le climat qui militent partout en France, notamment à Rennes. Il y a un groupe Youth for Climate à Rennes. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette jeunesse qui milite plus globalement pour l'écologie, pour sauver la planète? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce militantisme de ces jeunes qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux?
Alors je ne sais pas qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, il est évident que c'est le problème de la jeunesse. C'est pas quand vous me posiez la question qu'est-ce qui me motivait quand j'avais 17 à 18 ans pour lutter contre la centrale du Plogoff, c'était ça, c'était d'être acteur de l'endroit où je vis, de défendre l'environnement et la culture de l'endroit où je vis. Et je pense que la jeunesse aujourd'hui a plus qu'intérêt à se mobiliser parce qu'en fait, on hypothèque en fait cet avenir. On vous dit, à vous les jeunes, le problème des déchets, on va enterrer ça à Bure et j'ai envie de dire, passez-moi l'expression, vous vous démerderez avec ça. Vous vous démerderez avec le démantèlement des centrales nucléaires. Et la jeunesse dit non, nous on veut des actes forts, de politique responsable sur une problématique démocratique et qui engage toutes les générations. Et je pense que c'est ça qui se passe, c'est-à-dire il y a une urgence climatique et les jeunes, la nouvelle génération, a intérêt effectivement à mettre la pression sur les politiques et moi je soutiens complètement cette démarche-là. Ouais.
Merci beaucoup Fañch Le Hénaff d'avoir répondu à nos questions.
Merci et puis bonne continuation et je pense que la mobilisation est importante de tous, de toutes, contre la relance du programme nucléaire en France et pour effectivement une terre saine pour les générations futures.